Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la gestion de sinistres automobiles en France, la convention IRSA. Pour tous ceux qui débutent dans le métier, c'est un peu la Bible, le système qui rythme nos journées. Elle a été créée pour une raison simple, aller plus vite et simplifier les choses entre assureurs.
Oui, c'est exact. Et c'est justement là que notre discussion commence. La question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce que cette convention, avec son fameux barème de responsabilité, est vraiment l'outil pragmatique et efficace qu'on nous présente? Ou est-ce qu'à force de vouloir tout simplifier, elle ne devient pas un peu trop simpliste, au point de créer une réalité qui est parfois déconnectée de ce que dirait un juge en droit commun?
Je pense que c'est un mécanisme indispensable et globalement très bien fait. Je défendrai l'idée que l'IRSA est la colonne vertébrale qui permet au système de fonctionner sans s'effondrer sous le poids des millions de sinistres annuels.
Et de mon côté, je soutiendrai que cette quête d'efficacité, bien qu'absolument nécessaire, nous oblige à accepter certaines fictions. Le bon gestionnaire doit savoir appliquer la convention, bien sûr, mais surtout comprendre quand elle s'éloigne de la justice au sens du droit commun.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Le principe de l'IRSA est, à mon sens, une pure merveille. Enfin, une merveille d'ingénierie assurantielle. Indemniser notre client rapidement, puis gérer le recours avec l'autre assureur de manière simple et standardisée. Face à un volume colossal de dossiers, on ne peut pas se permettre de débattre pendant des mois sur chaque accrochage de parking. C'est là que le barème prend tout son sens. Il apporte une prévisibilité. Que l'on soit à Lille ou à Marseille, le traitement d'un cas similaire sera le même. Le barème couvre les situations les plus courantes, qu'on voit tous les jours. Le choc par l'arrière, notre fameux K10, où la responsabilité est simple et entière. Mais il va plus loin, en traitant les changements de fil avec le K15 ou même les accrochages sur les parkings avec le K40. Pour un jeune gestionnaire qui prend ses fonctions, c'est un cadre incroyablement rassurant qui lui permet d'être opérationnel très vite.
Je comprends parfaitement cette vision, c'est le discours officiel et il a sa logique. Mais je voudrais tout de suite introduire un grain de sable majeur dans cette belle mécanique. La convention elle-même, dans son texte, contient une phrase qui change tout. Elle est inopposable à l'assuré. Ce n'est pas un détail technique. Ça veut dire que notre client, lui, n'est pas lié par notre barème. Il peut parfaitement refuser notre analyse si la solution en droit commun lui est plus favorable. Et ça, pour le gestionnaire, ça change toute la perspective. On ne peut pas juste appliquer une grille. On est obligé de réfléchir en permanence sur deux niveaux. La réalité de la convention pour nos recours entre assureurs et la réalité du droit commun pour notre client. C'est cette tension qui est au cœur du métier. Et la convention ne dit rien des éléments cruciaux du droit commun. Une vitesse excessive, un défaut d'éclairage, une manœuvre de sauvetage pour éviter un enfant qui traverse, tout ça est volontairement ignoré par l'IRSA.
Vous mettez le doigt sur une dualité intéressante, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Dans 95% des cas, la solution IRSA et la solution de droit commun sont alignées. Le barème apporte de la clarté là où il n'y aurait que de l'incertitude. Prenons un exemple concret, l'accident le plus simple. Le véhicule A heurte l'arrière du véhicule B. K10, responsabilité 100% pour A. C'est net, sans discussion. On indemnise B, on applique le malus à A, le dossier est réglé en quelques jours. Sans ça, A pourrait commencer à dire « Oui, mais B a freiné brusquement et on partirait dans des débats sans fin. L'IRSA tranche. »
Attendez, quand vous dites que c'est net, sans discussion, ça ne vous dérange pas qu'on ignore complètement la raison de ce freinage? Si le conducteur de devant a pilé sans aucune raison juste pour s'amuser, le droit commun pourrait retenir une part de sa responsabilité. L'IRSA, elle, l'ignore totalement. L'efficacité a ses limites. Mais allons plus loin. Prenons un cas un peu plus complexe pour illustrer mon propos. Imaginez un livreur arrêté en double fil le temps de déposer un colis. Il est là depuis 30 secondes. Un autre véhicule change de fil pour le dépasser et l'accroche. Que nous dit l'IRSA?
C'est un excellent exemple. L'IRSA nous donne les outils pour trancher. On va regarder si le livreur était en stationnement irrégulier, ce qui pourrait nous orienter vers un K43 avec un partage de responsabilité 50-50, ou si le second véhicule a mal exécuté son changement de fil, ce qui relèverait du K15 et le rendrait 100% responsable. Le constat amiable sera clé. Les cases cochées, les observations, tout est là pour nous guider.
Et c'est là que la fiction commence. D'abord, sur la notion de stationnement. Notre livreur, il n'est pas en stationnement, il est à l'arrêt, le temps d'une course. Le droit commun fait très bien la différence, mais la convention, elle est beaucoup plus floue et a tendance à tout mettre dans le même sac. Ensuite, et c'est encore plus parlant, la preuve du changement de fil. C'est un des exemples les plus incroyables de la réalité conventionnelle. Savez-vous que si le conducteur accroché écrit dans le constat « l'autre véhicule m'a heurté », ce n'est pas considéré comme une preuve de changement de fil. Par contre, s'il écrit « l'autre véhicule m'a serré », là, ça en devient une.
Je vois où vous voulez en venir.
C'est une pure distinction sémantique. Imaginez deux assurés qui décrivent exactement la même scène, la même manœuvre, le même accrochage. L'un utilise le verbe « heurter », l'autre le verbe « serrer ». Le premier risque un partage 50-50, le second obtiendra une responsabilité nulle. Ça n'a rien à voir avec la physique de l'accident ou la réalité des faits. C'est une pure construction de la convention. Voilà ce que j'appelle une fiction juridique. On ne juge pas un fait, on juge la manière dont il est écrit sur un formulaire.
Je comprends l'argument, c'est un cas d'école connu. Mais sans ces règles précises, aussi arbitraires puissent-elles paraître, chaque dossier deviendrait une interprétation subjective et sans fin. La convention a le mérite d'établir un langage commun, une sorte de grammaire de l'accident. Et cette grammaire s'appuie sur une hiérarchie des preuves qui est très saine. D'abord le procès-verbal de police ou de gendarmerie, qui est quasi incontestable. Ensuite, le constat amiable signé par les deux parties. Et seulement après, les déclarations unilatérales et autres éléments. Cette structure garantit une uniformité de traitement sur tout le territoire. C'est la base d'une gestion de masse qui se veut équitable.
Une uniformité qui peut confiner à l'injustice. Vous parlez de la hiérarchie des preuves, mais parlons du témoignage. En droit commun, un juge écoute un témoin, évalue sa crédibilité, son récit, c'est une preuve vivante. Dans le cadre de l'IRSA, le témoignage est corseté dans un formalisme glacial. Il doit être recueilli sous 3 mois, sur un formulaire spécifique, avec une copie de la carte d'identité du témoin. Et surtout, ce témoin ne peut être ni un membre de la famille, ni un passager transporté, ni même un collègue de travail. Je me souviens d'un dossier où un commerçant avait tout vu depuis sa vitrine. Son témoignage était capital. Mais il l'a envoyé par simple email, pas sur le bon formulaire. En application stricte de l'IRSA, son témoignage a été écarté. Un juge l'aurait jugé parfaitement recevable et il aurait changé l'issue du dossier. On préfère la forme au fond.
Vous soulevez un point intéressant sur la preuve, mais dans bien des cas, la preuve la plus évidente vient du non-respect du code de la route lui-même. Et c'est là que la convention est très efficace, notamment dans la gestion des priorités. Elle établit des règles claires. Le cas 50 traite des interdictions absolues. Un feu rouge grillé, une ligne continue franchie, un stop non respecté. Dans ces situations, la responsabilité est de 100% point final. C'est logique, c'est carré, ça reflète parfaitement la gravité de la faute de conduite. Le cas 51, pour les interdictions relatives, comme un « céder le passage », est tout aussi clair. Pour le gestionnaire, c'est un guide précieux.
N'entraîne pas systématiquement l'application du cas 50. La convention a ses propres subtilités d'interprétation. Mais l'exemple le plus flagrant, c'est la gestion des feux tricolores. Deux conducteurs s'accrochent dans un carrefour. L'un dit « je suis passé au vert », l'autre dit « non, c'est moi qui suis passé au vert ». Que fait la convention? Elle part d'un postulat de base, les feux sont synchronisés. Comme on ne peut pas prouver qui a tort, on applique le fameux cas 56, partage de responsabilité 50-50. C'est une solution de facilité, on ne cherche pas à savoir s'il y a des témoins, des caméras. On clôt le débat par un partage qui arrange tout le monde sur le plan administratif, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité où il y a bien un conducteur fautif et un autre qui ne l'est pas.
Le cas 56 est une solution pragmatique pour une situation qui est, par définition, à déterminer. C'est toujours mieux qu'un blocage complet du dossier qui pénaliserait les deux assurés pendant des mois. Il faut voir le système dans son ensemble. C'est un arbitrage. Et cet arbitrage se retrouve dans la partie la plus importante pour nous, assureurs, le recours. Le système de recours est un modèle d'efficacité. Pour les dommages matériels en dessous de 6 500 € hors taxe, c'est-à-dire l'immense majorité de nos dossiers, le recours est forfaitaire. C'est un simple flux informatique, rapide, peu coûteux. On ne s'échange pas des factures, des rapports d'expertise, c'est une gestion industrielle des sinistres de fréquence. Au-delà de ce seuil, les enjeux étant plus importants, on passe logiquement à un recours au réel. C'est intelligent et proportionné.
C'est un argument très fort, celui de l'efficacité économique. Mais avez-vous regardé le revers de la médaille? Parlons des abandons de recours. Certains postes de préjudice, comme les frais de remorquage, les frais d'immobilisation, le coût d'une voiture de location, ne font l'objet d'un recours que pour la part qui dépasse le fameux seuil de 6 500 €.
Concrètement, ça veut dire quoi? Votre assuré est victime d'un accident. Il n'est absolument pas en tort. Son véhicule est remorqué pour 500 euros et il a besoin d'un véhicule de remplacement pendant les réparations pour 1000 euros. Son préjudice total hors réparation est de 1500 euros. Eh bien, en tant qu'assureur, vous allez l'indemniser pour ses frais. Mais vous n'exercerez aucun recours contre l'assureur du responsable. Zéro. Vous supportez intégralement cette charge. Comment peut-on parler de justice quand l'assureur d'une victime non responsable doit payer 1500 euros de sa poche, sans pouvoir se retourner?
C'est le principe de la mutualisation. Sur des millions de sinistres, ses coûts se lissent. L'assureur qui perd aujourd'hui sur ce dossier, eh bien, il gagnera demain sur un autre où la situation sera inversée. Le calcul a été fait. Au global, le coût de la gestion d'un recours au réel pour ces petites sommes serait supérieur aux sommes elles-mêmes. Abandonner le recours est économiquement plus rationnel pour l'ensemble de la communauté des assureurs. C'est un choix de système.
C'est un choix économique, et vous avez raison de le dire. Mais ce n'est pas un principe de justice. C'est un arrangement comptable qui, au niveau d'un dossier individuel, peut paraître totalement inéquitable. L'efficacité du système a un coût, et ce coût est mutualisé de manière parfois aveugle. C'est essentiel pour un jeune gestionnaire de comprendre ça. Quand il indemnise ses frais annexes, il doit savoir que dans de nombreux cas, cet argent est une perte sèche pour sa compagnie, malgré l'absence de faute de son client. Ce n'est pas neutre.
En conclusion, et pour revenir à notre question de départ, je maintiens que la convention IRSA est un compromis nécessaire et remarquablement intelligent. Elle sacrifie une part de la complexité juridique, c'est vrai, mais elle le fait sur l'autel de l'efficacité opérationnelle et de la rapidité d'indemnisation. Pour le jeune professionnel qui nous écoute, la maîtriser, c'est se doter d'une grille de lecture puissante pour traiter 95% de ses dossiers de manière rapide, cohérente et prévisible. C'est apprendre les gammes avant de vouloir jouer du jazz. C'est un système qui a largement fait ses preuves et qui est de fait le socle de notre métier au quotidien.
Je conclurai différemment. L'IRSA est un outil incontournable, nous sommes d'accord là-dessus. On ne peut pas travailler sain. Mais il ne faut jamais le considérer comme une fin en soi, ni le confondre avec le droit. Le bon gestionnaire, ce n'est pas celui qui connaît le barème par cœur. C'est celui qui l'applique avec rigueur, mais qui sait aussi en identifier les limites. Celui qui comprend quand la réalité conventionnelle qu'il est en train de construire s'écarte trop des faits. La fameuse mention « inopposable au client » n'est pas un détail, c'est un garde-fou, un rappel constant de la dualité de notre analyse. Comprendre et maîtriser cette tension entre l'efficacité de la convention et la justesse du droit commun, c'est ça la véritable clé d'une gestion de sinistre à la fois performante et éclairée. Et il y aurait encore tant à dire sur les subtilités de cette convention.